Rémi McEwen, qui va nous présenter donc un travail sur... Ah bah super. Sur Machiavel et Tupac Shakur, donc plutôt original. Il nous vient du département de philosophie au Collège Montmorency au Québec, mais c'est aussi un animateur radio, donc un média qui est quand même important aussi pour les musiques hip-hop, donc c'est d'autant plus intéressant. Je vous laisse la parole, vous avez 20 minutes.
Oui, effectivement, je suis professeur dans un collège. Pour ceux qui ne connaissent pas le système d'éducation québécois, entre l'école secondaire, ou bon, le lycée et l'université, au Québec, il y a ce qu'on appelle les cégeps. Ce sont des collèges d'enseignement général et professionnel. Dans ces écoles-là, il y a soit des programmes préuniversitaires, ça dure 2 ans, ou encore des programmes de 3 ans, qui, tout le monde là-dedans, doit faire 3 cours obligatoires de philosophie. Ce sont des cours de base, c'est-à-dire que bon, je fais l'allégorie de la caverne, je fais l'existentialisme est un humanisme, des choses comme ça, là, vraiment Descartes, etc. Mais donc, après, ça fait 5 ou 6 ans que je fais ça déjà, même 7. Et puis, rapidement, bon, ça devient un travail très répétitif et j'ai voulu faire mon propre truc finalement, pas faire ce qu'on est censé faire quand on fait ce job-là. Et donc, dans le cursus des étudiants, il y a des cours complémentaires. Il y a donc, on choisit quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on est en train de faire normalement. Et le département de philosophie offre aussi des cours comme ceux-là, c'est-à-dire des cours complémentaires qui, la philosophie qui ressemble peut-être un petit peu plus aux intérêts des professeurs. Et donc, j'ai créé ce cours qui s'appelle « Philosophie du hip-hop ». Je l'ai donné une première fois l'année dernière et je le donne une deuxième fois à cette session-ci, présentement. Et ce que je fais dans le cours, finalement, c'est de prendre des rappers, la grande tradition américaine, vraiment. Je commence en 1973, les Block Party, etc., et je me rends à peu près jusqu'à Lauryn Hill, disons. Je passe par The Message, les grands classiques, et je fais un aller-retour entre ce qui est dit dans les chansons rap. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans la philosophie européenne, pas pour faire quelque chose, pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre, simplement pour voir s'il ne peut pas y avoir des points de contact entre la philosophie traditionnelle européenne, blanche donc, et le rap, et la tradition rap américaine. Et il y a des rapprochements. Il faut faire confiance au texte, évidemment. Il faut faire confiance à ce qu'on a sous les yeux pour ne pas essayer d'imposer de la philosophie dessus, mais vraiment aller chercher ce qu'il y a dedans. Par exemple, j'arrive à Tupac dans un instant, mais par exemple, bon, The Message, bon, qu'est-ce qu'il dit dans The Message? Il y a une cage d'escalier, justement, tout de suite au début de The Message, il sort de chez lui, puis il y a de la vitre brisée partout, broken glass everywhere. Quand il sort de chez lui, tout de suite, il est confronté à ça. Et puis, bon, les conditions matérielles, donc, s'imposent à Melly Mel, s'imposent à Duke Booty. Et puis, il est donc pris dans un monde matériel. Bon, ben là, il y a tout de suite un rapprochement qui peut se faire avec la tradition matérialiste française, Diderot, d'Holbach, etc. Et puis, d'aller chercher, finalement, où est la liberté. It's like a jungle sometimes. I'm trying to keep... Il y a Seth, garder sa tête hors de l'eau. Et donc, où est la liberté dans un monde qui est, somme toute, matériel. Et donc, je travaille comme ça en faisant un aller-retour. Par rapport à Tupac, le rapprochement s'est fait très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il le fait lui-même. Bon, vous disiez un rapprochement surprenant, Emmanuel, mais quand même, Machiavel, c'est ce que revendique Tupac. En 1995, il est en prison, il lit Le Prince de Machiavel, il est marqué à un point tel par cette lecture qu'il adopte Machiavelli comme surnom. Et bon, pourquoi j'ai choisi la photo qui est là, on ne le voit pas très bien, mais dans son cou, il s'est fait tatouer Machiavelli carrément. Ça, c'est au Soul Train Awards en 1996, donc l'année de sa mort, donc c'est peu de temps avant sa mort. Et donc, il revendique lui-même une appartenance. Et puis, Tupac est quelqu'un qui lisait beaucoup, donc l'aspect du knowledge, Murray Foreman, vous en parliez, l'aspect du knowledge est très important pour Tupac depuis sa jeunesse. Les lectures de Tupac font l'objet d'une recherche en soi, là, si on veut. C'est-à-dire qu'il lisait The Roots d'Alex Haley, il lisait Le Prince, je le disais évidemment, il lisait L'Art de la guerre de Sun Tzu, il lisait L'Attrape-cœur, J.D. Salinger. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'il lisait. Et Machiavel est arrivé tard, mais ça l'a marqué énormément. Il a adopté ce nom-là. Donc, comment comprendre l'adoption du surnom Machiavelli par Tupac Shakur? Il y a plusieurs façons de le comprendre. Quelques interprétations qui ont été offertes me semblent insuffisantes. La première interprétation, c'est présent dans un livre comme celui de Michael Eric Dyson, Tupac Shakur, Holler If You Hear Me, Searching for Tupac Shakur. Et puis, dans tout ce livre, il est question de Machiavel sur une page ou deux. très rapidement mentionné, à peine approfondi. Il dit, il y a une rumeur sur Internet qui dit la chose suivante. Tupac aurait adopté le nom Machiavel vers la fin de sa vie parce qu'il aurait été marqué par un conseil qui se trouve dans le prince, qui serait que le prince voudrait répandre la rumeur de sa propre mort, mais ne serait pas mort vraiment. Donc, Tupac n'est pas mort vraiment, puis il vit en quelque part avec Elvis. Mais puis là, après ça, Michael Eric Dyson n'en parle plus. Il met la question de côté. C'est comme si ça n'avait pas d'importance. Alors que quand même, bon, c'est une monographie sur Tupac Shakur, et il s'est appelé Machiavelli. Le premier album posthume qu'il a sorti, Seven Day Theory, Don Illuminati, il le sort sous le nom Machiavelli, carrément. Donc, pourquoi en traiter pendant une demi-page puis mettre ça de côté tout de suite? C'est quand même assez curieux. Par contre, bon, le conseil de répandre la rumeur de sa propre mort, je ne l'ai pas trouvé, moi, dans Le Prince. C'est une rumeur, mais c'est pas là. C'est tout simplement pas là. C'est une rumeur qui perdure encore aujourd'hui, mais ça n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est dans un autre texte de Machiavel, dans L'Art de la guerre. Pas celui de Sun Tzu, celui de Machiavel. Machiavel donne le conseil suivant. Il dit « Répandez la rumeur de la mort du général adverse. » Pour des raisons évidentes. Parce que, bon, si on pense que le général adverse est mort, ben on aura d'autant plus de motivation pour aller combattre les troupes adverses. Mais sa propre mort, nulle part, c'est dit. Puis c'est comme si on voulait pas fouiller ça pour des raisons qui m'échappent vraiment. Deuxième possibilité d'interprétation de l'adoption du surnom Machiavelli, c'est toute la tradition du signifying. Bon, c'est une tradition très importante. Henry Louis Gates Jr. l'a développé dans son classique Signifying Monkey, qui est de 1988, si ma mémoire est bonne. Et ce que ça soutient, cette tradition-là, c'est que très souvent, pour avoir une tradition herméneutique proprement afro-américaine, ce qu'il faut faire, c'est de se dire que souvent on présente quelque chose, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on est en train de défendre. Donc, on cache un peu un sens, c'est-à-dire on attire l'attention de quelqu'un. Bon, ben là, il adopte le nom Machiavelli. On attire mon attention, moi, en tant que curieux de Tupac. Et puis après, ben, on passe le ghetto, on passe toutes les Black Panthers, j'y reviendrai, mais on passe toutes sortes de choses. C'est juste Machiavelli, ça serait comme un prétexte, finalement, et ça n'aurait pas d'importance en soi. Encore là, on se donne le beau rôle, c'est-à-dire on est en train d'évacuer la question avant même de l'avoir traité, avant de prendre au sérieux la lecture de Machiavel par Tupac. Bon, mais au moins, si on prend cette voie-là, on est en train de... Au moins se dire que Tupac est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, que Tupac n'est pas con. Parce qu'il existe aussi des interprétations qui prennent Tupac pour un crétin. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve personnellement, c'est sûrement le cas de plusieurs d'entre vous, dans les hip-hop studies, que les analystes des œuvres se pensent plus intelligents que ce qu'ils sont en train d'analyser. Et je pense que c'est une faute grave. Je veux dire, Tupac est... C'est un génie, là. C'est un génie musical, mais c'est un génie point aussi. Puis quand on l'analyse, il faut le comprendre comme tel. Bon, pourquoi je dis qu'on le prend pour un con des fois? Ben, si on lit The Source, bon, qui était la revue importante de hip-hop dans les années 90, et puis The Source a sorti un numéro spécial pour la mort de Tupac, comme faisait tout le monde à l'époque, parce que ça faisait vendre des revues et parce que, ben, il était important, bien entendu. Et donc, le numéro de novembre 1996 de The Source a toutes sortes d'articles sur sa vie, on fait le résumé, etc. Mais il y a un éditorial qui s'appelle Man-Child Eulogy. Ça a été écrit par Adario Strange. Et puis, Adario Strange dit la chose suivante, je le cite, il dit, bon, ben, il est en train de parler de quand il fréquentait Tupac pendant sa vie, et puis il dit, bon, « Is he truly internalizing the wisdom within these great books that he's reading? » Et donc, comme s'il avait pu lire toute sa vie, comme s'il s'était intéressé à l'aspect knowledge du hip-hop toute sa vie, sans le comprendre. Il venait juste de mourir, en plus. C'est un manque de respect. En tout cas, c'est toutes sortes de choses qui sont inadmissibles pour une interprétation, pour une herméneutique, un tant soit peu intelligente par rapport à Tupac Shakur. Les traditions qui accordent cette importance à sa pensée et qui lui donnent une certaine intelligence vont souvent le présenter comme un être profondément dichotomique. C'est-à-dire, Tupac était d'une part quelqu'un qui était héritier de la tradition des Black Panthers, évidemment, via sa mère, Fannie Shakur, qui faisait partie des New York 21 en 1970. Ils ont voulu faire sauter toutes sortes de lieux historiques à Manhattan. Ils se sont fait arrêter, etc. Tupac, d'ailleurs, était en gestation pendant que sa mère était en prison. C'est bien connu. Le parrain de Tupac Shakur, c'était Geronimo Pratt. haut placé dans les Black Panthers. Et puis, donc, on se dit, ben, il y a un engagement politique. Puis là, on est dans la vague contestataire dont vous parliez. C'est-à-dire, bon, ben, on veut présenter Tupac comme un révolutionnaire, puis bon, des choses comme ça, un révolutionnaire de gauche, bien entendu, parce que ben, c'est ça qui fait plaisir, plus souvent qu'autrement, dans les milieux académiques. Autrement, ça, c'est la première branche, si vous voulez. La deuxième branche, c'est de dire, bon, ben, il y avait ça chez Tupac, mais il y avait aussi tout l'aspect, ben, le crack, finalement, le ghetto, le thug life. Il était sous tout le temps, il était gelé tout le temps, c'est bien connu. Bon, il était agressif, il semblait, bon, on écoute les entrevues, puis il a l'air presque désagréable. Et puis, on le présente donc comme une espèce de paradoxe ambulant. Et puis, ce paradoxe-là est résumé dans un vers célèbre où il dit « Even if you were a crack fiend, mama, you always be a black queen, mama. » Donc, il y a vraiment les deux qui se présentent chez lui. Puis, on se dit « Bon, mais c'est un paradoxe. » Mais on n'essaie pas de résoudre le paradoxe. Il se trouve que si on lit attentionnément Le Prince de Machiavel en ayant les textes de Tupac à côté, Machiavel résout ce paradoxe-là facilement. C'est pas une interprétation particulièrement difficile de ce que je vais vous proposer. Ça saute aux yeux. Il s'agit juste de prendre la peine de lire Le Prince et de le comparer au texte de Tupac. Bon, de dire que Tupac est machiavélien, évidemment, ça le place dans une tradition politique de droite. Ça peut déranger, mais que ça dérange alors. Mais j'y peux rien. Mais bon, pourquoi à la base, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? C'est que Tupac est profondément réaliste. Machiavel est le maître penseur de la politique ou de la philosophie politique réaliste. Déjà, on a un lien clair et net. Autrement, bon, il y a le cynisme chez Machiavel, évidemment. Il y a le cynisme qui est présent partout. Il y a le cynisme qui est présent partout aussi chez Tupac. Une espèce de pessimisme, une lucidité. Bon, ça, c'est des aspects plus généraux. Mais si ça dérange de présenter Tupac à droite, parce qu'on se dit, bon, ben les Black Panthers, quand même, il y avait des liens avec les Maoïstes, il y avait des visées internationalistes, etc. Oui, d'accord, mais quand on lit la littérature de l'époque, donc l'époque début des années 70, des Black Panthers et des groupes affiliés aux Black Panthers, je pense à des textes comme Revolutionary Suicide de Huey Newton, fondateur des Black Panthers. Je pense à Die Nigger Die de Rab Brown, qui était dans un organisme Students for a Nonviolent Committee, je pense, de 1969. Ou même James Baldwin dans son No Name in the Street, qui est un essai, bon, il était plus connu pour ses romans, mais dans son essai No Name in the Street de 1972. Tous ces textes-là, donc, qui tournent autour de l'époque de la fondation, si vous voulez, de l'idéologie Black Panthers, donc post-mort de Malcolm X, 1965, post-assassinat de Martin Luther King, 1968. On sent dans ces textes-là, d'abord, une revendication du droit à la violence. Et surtout, quelque chose qui est absolument associé au Parti républicain aujourd'hui, une défense bec et ongles du droit de porter des armes. Vous lisez Huey Newton, et puis ce qui se trouve là-dedans, c'est quelqu'un qui dit, ben, une des premières actions des Black Panthers, c'était, il dit, at a safe distance, donc disons, je ne sais pas moi, le poteau juste là. Il dit, il y avait une police qui était en train d'interpeller quelqu'un, puis moi, j'étais à une distance safe. Et puis, j'ai mon arme en main, et puis je suis en train de lui montrer que je surveille son travail. Ce qui est quand même pas rien, là. Ça, c'est à Oakland, à la fin des années 60. Cette revendication de force personnelle à travers la possession d'armes fait ressembler beaucoup de la philosophie Black Panthers et fait ressembler beaucoup de la philosophie de l'époque à une philosophie de droite. Et Machiavel, bien entendu, s'inscrit dans cette tradition-là. Bon, la lecture... J'y arrive, là, la lecture de Machiavel avec Le Prince. Le but fondamental qui est décrit dans Le Prince, c'est quoi? Vous le connaissez, vous l'avez lu, j'imagine. Le but d'un prince, c'est de dominer un territoire le plus longtemps possible. C'est simple comme ça. C'est quoi le but de Machiavel? Dominer un territoire le plus longtemps possible, en l'occurrence la côte ouest. Ou encore les États-Unis au complet. Quels sont les moyens qu'on prend pour arriver à dominer un territoire le plus longtemps possible? Eh bien, on s'éduque. La connaissance, c'est le premier aspect revendiqué par Machiavel. Même en temps de paix, il faut se préparer à la guerre, et la façon qu'il faut se préparer à la guerre, c'est en lisant toujours et en imitant des grands personnages du passé. Et c'est exactement ce que fait Tupac Shakur également. Il s'instruit depuis le début de sa vie, je le disais, ses lectures font partie de sa formation depuis le début, et donc l'aspect connaissance est extrêmement important pour lui depuis toujours. L'autre chose que dit Machiavel qu'il faut faire pour se préparer toujours à la guerre, et donc d'être toujours sur le qui-vive, c'est de faire de la chasse. Bon, Tupac n'était pas chasseur nécessairement, mais à quoi sert la chasse selon Machiavel? C'est de découvrir le territoire sur lequel on vit, d'avoir une familiarité avec notre territoire. Ben, on le sait, Tupac est né à Harlem, après ça il est allé à Baltimore, après ça il est allé sur la côte ouest, donc il a cette connaissance, ni plus ni moins, même s'il est en rivalité avec New York par la suite, ben, il a une connaissance intime du territoire new-yorkais, et ça lui permet d'entrer en guerre, dans un sens métaphorique, mais dans un sens réel aussi, étant donné que ça lui a coûté sa vie, à celle à Notorious Big aussi. Ben, il a cette connaissance du territoire, une connaissance intime. L'idée fondamentale, et c'est ça qui est le plus important, je pense. L'idée fondamentale du prince, c'est quoi? C'est que si on veut faire de la politique, si on veut dominer un territoire le plus longtemps possible, il faut mettre de côté complètement la question de la moralité. La politique et l'éthique sont deux choses distinctes. On est donc loin et très loin d'Aristote, par exemple, qui vraiment, on peut faire une lecture des politiques d'Aristote, une lecture d'éthique à Nicomaque, et faire des chemins de traverse, là, parce que le bonheur individuel est lié au bonheur collectif. Bref, ça, c'est Aristote, mais le prince, on est ailleurs. Je cite un passage du prince, c'est au chapitre 15. Et on aurait l'impression que Tupac aurait pu écrire ça. « Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu'en étudiant que cette dernière, on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver. Et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et en user bien ou mal selon la nécessité. » Et cette notion de nécessité est absolument centrale. Chez Machiavel, mais aussi, on peut remonter en arrière, on peut aller jusqu'à KRS-One. « By any means necessary », le titre de son album de 1987, évidemment calqué sur le fameux discours de Malcolm X. Et cette notion de faire ce qui est nécessaire, pas faire ce qui est bien, pas faire... C'est ça la politique pour Machiavel, et c'est comme ça que Tupac a vécu sa vie. Gardez en tête la citation de Machiavel, et je prends trois exemples chez Tupac. Pensez à la chanson « I ain't mad at you ». Qu'est-ce qui se passe dans cette chanson-là? Tupac critique un de ses amis qui a changé. Pourquoi il a changé? Bon, ben, son ami a adopté un style de vie moral. Il a décidé que lui, la moralité, bon, il allait adopter la religion, il allait adopter une vie droite, etc. Puis il dit, ben, je ne suis pas fâché, mais je ris de toi. C'est drôle. Quelqu'un qui veut vivre selon la moralité, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est quelqu'un qui va se faire écraser, tout simplement. Donc, je ris de toi, je me fous de toi. Autre exemple, puis là, ça précède sa lecture du prince, mais déjà, il y avait des germes de ce genre de pensée-là chez lui, chez Tupac. En 1994, dans « Bury Me a G », il dit la chose suivante, « Sticking to the rules was a major sin. » C'est quoi des rules? C'est quoi des règles? Ben, c'est des règles morales, bien entendu. La loi, bien entendu, mais avant la loi, il y a la morale. Puis toutes sortes de règles, qu'elles soient morales ou légales, est écartée. Pourquoi? Parce qu'on vit la thug life, parce qu'on s'en fout de tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est dominer un territoire le plus longtemps possible, par tous les moyens nécessaires. Est-ce que ça veut dire, parenthèse, est-ce que ça veut dire que la fin justifie les moyens? Non, ça ne veut pas dire ça, ni chez Machiavel, ni chez Tupac. Et pour s'en convaincre, il faut écouter, ça a été sur la radio ici en France l'été dernier, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu, c'était à France Inter, c'était des capsules, Patrick Boucheron qui a fait des capsules sur Machiavel, ça s'appelait « Un été avec Machiavel ». Tous les matins sur France Inter, il faisait 4 minutes, qui présentait, vous l'avez entendu, bon, qui présentait un aspect de la pensée machiavélienne. Et puis à un moment donné, il dit, ben, c'est lumineux, il dit « Pourquoi la fin ne justifie pas les moyens? » Ben, tout simplement parce que la fin, on la connaît pas. La pensée de Machiavel, c'est de s'adapter constamment aux circonstances. Donc, on fait ce qui est nécessaire selon les circonstances sans savoir nécessairement c'est quoi la fin, sans savoir comment on va arriver exactement là. À chaque jour, dominer est un combat différent. Je donne un dernier exemple par rapport à la moralité et la critique de la moralité chez Tupac. C'est sur la pièce Changes, qui encore une fois précède sa lecture de Machiavel. Et il se qualifie lui-même de « heartless hustler ». Et si ma mémoire est bonne, puis là j'y vais de mémoire, je suis désolé, mais bon, les tatous de Tupac sont nombreux, puis il y en a un qui s'est écrit « heartless », carrément. Et donc, je suis un sans-cœur, je suis quelqu'un qui ne se soucie pas du moral. L'exception étant, bien entendu, puis il y aurait toutes sortes de choses à dire par rapport à ça, l'exception, bien entendu, étant sa propre mère, Aphélie Shakur. Tout le temps, mais ça c'est tout le temps le hip-hop, l'exception, la femme qui mérite le respect, il y en a une. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la mère. Bon, je termine rapidement parce que j'arrive à la fin. Il y a une triade de concepts chez Machiavel qui peut être, encore une fois, mise en parallèle avec ce que raconte Tupac. Et c'est la triade virtu, fortuna et necessita. La nécessité, j'en ai déjà parlé, mais d'où vient cette idée de nécessité? L'idée de nécessité, c'est une combinaison de ces deux premiers concepts-là, la virtu et la fortuna. La virtu, c'est pas la vertu morale, loin de là, c'est la force vitale, c'est la capacité de s'imposer sur le monde, c'est la testostérone, finalement. Tandis que la fortuna, elle, bon, ben, c'est le destin, mais pas tout à fait le destin, c'est-à-dire c'est la chance, c'est bon, les choses qu'on ne peut pas contrôler qui arrivent. Et la combinaison de savoir quand imposer notre force sur le monde et quand respecter les circonstances qu'on ne contrôle pas, et le juste milieu entre ces deux-là, la combinaison de ces deux-là, c'est d'arriver à faire ce qui est nécessaire. La question que je me pose, et je me la pose toujours, ça fait un an et demi à peu près là, que je suis là-dedans, et puis je ne suis pas que dans Tupac, je suis dans les autres, comme je vous disais au début, c'est est-ce que Tupac a bien lu Le Prince? Est-ce qu'il a bien compris comment jumeler Necessita, ou jumeler plutôt Virtu et Fortuna, pour arriver à faire ce qui est nécessaire? Est-ce que sa mort a été précipitée par une mécompréhension de ce qu'il revendiquait comme philosophie politique, finalement? Parce que c'est la philosophie politique qu'il revendiquait. La réponse provisoire que je vous propose, puis vraiment je conclue, c'est que c'est Machiavel lui-même qui a peut-être présenté quelque chose d'intéressant, mais que lui-même, il l'a présenté trop d'un angle. Vers la fin du Prince, c'est dans le chapitre 25, ce que dit Machiavel, il dit une chose horrible, bon, pour nos yeux modernes, il dit « La fortune est femme, il faut la battre pour la dominer. » Bon, je rappelle qu'en 1995, Tupac est en prison pour agression sexuelle. Donc, cette volonté de domination totale de la fortune, de s'imposer totalement par la force, c'est comme ça qu'a vécu Tupac. Et c'est peut-être ce qui a mené à sa perte. Voilà, merci.